droit de s'en aller. Voilà. Eh bien, ce que je crois, c'est qu'en effet, nous avons le droit de nous en aller, c'est-à-dire le droit de mourir, y compris volontairement. Quand la vie nous paraît
atroce. Ce fut le choix de votre mère.
Parce qu'on est, on souffre atrocement, parce qu'on est dans un état de vieillesse, de décrépitude extrême ou terriblement handicapé. Bref, j'ai le droit de mourir si je le veux. Alors, pour de bonnes raisons, évidemment. C'est un gamin de 16 ans qui a un chagrin d'amour, on ne va pas l'aider à mourir. Il faut d'abord le consoler, le soigner s'il est dépressif. Cela va de soi. Mais en effet, je crois que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme. C'est pourquoi je souhaite que la France suive le chemin de la Belgique, mais aussi de la Suisse, désormais de l'Espagne et de plusieurs autres pays européens.
À quoi bon chercher perpétuellement un saint ou déplorer son absence quand le monde entier est là, qui se donne à connaître, à aimer, à affronter, à transformer? Question que vous posez dans votre nouvel ouvrage, et vous nous invitez à grandir. Et pour vous, grandir, c'est avant tout surmonter une triple blessure narcissique, accepter la séparation, accepter sa propre banalité, accepter le sevrage. C'est une recette pour grandir en amour, en fait.
Oui, c'est ça, accepter sa propre banalité. Ce que m'avait dit une amie psychiatre, elle me disait « Les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. » Oui, parce que pour arriver à s'aimer soi-même comme on est, bah, faut accepter qu'on soit quelqu'un comme n'importe qui, si vous voulez. Mais dès lors qu'on, tant qu'on croit être quelqu'un d'exceptionnel, bah, on est dans le narcissisme et pas dans l'amour de soi, bien sûr. Donc, accepter sa propre banalité, sa propre finitude, donc accepter d'être mortel. Je ne sais plus, il y avait le titre d'un film que dans ma jeunesse, donc je ne sais plus là le nom du cinéaste, mais le titre du film c'était « Un type comme moi ne devrait jamais mourir ». Et au fond, c'est ce que chacun pense en nous. Ben oui, tu mourras quand même, et donc il faut l'accepter. Si tu dis « j'aime la vie » et que tu n'acceptes pas la mort, tu n'aimes pas la vie, puisque la mort fait partie de la vie. Vous voyez. Et donc il y a une espèce de travail, accepter la solitude aussi, comprendre que la fusion n'existe pas, et que donc qu'on appelle l'amour fusionnel est un rêve, une illusion et une impasse. Vous voyez.
Il s'agit donc d'accepter la séparation.
Accepter la séparation. Autrement dit, il ne s'agit pas de ne faire plus qu'un, comme on le dit sottement. Ça, c'est un rêve qui échoue toujours, et j'ai envie de dire heureusement. C'est tellement merveilleux d'être deux, si vous voulez. Pourquoi vouloir n'être qu'un? Quand on fait l'amour, on est deux, il faut être deux pour faire l'amour, sinon c'est ce qu'on appelle la masturbation. Alors c'est pas un péché, hein, mais enfin c'est quand même pas non plus l'idéal. Ouais. Et quand vous faites l'amour, et même en cas d'orgasme simultané, reconnaissons que c'est quand même pas le plus fréquent, mais même en cas d'orgasme simultané, pour qu'il y ait orgasme simultané, il faut qu'il y ait deux orgasmes. Hein, c'est la définition même de la simultanéité. Et vous ne saurez jamais, jamais, ce que l'autre a vécu pendant que vous jouissiez. C'est ce qu'on appelle la séparation. Et il faut donc l'accepter, mais d'autant plus volontiers qu'il n'y a rien de plus délicieux, justement, que cette dualité-là. Oui. Woody Allen, je crois, dit quelque part, se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Alors, c'est une boutade, c'est drôle, mais quelle tristesse si c'était vrai. Heureusement qu'il y a des gens plus intéressants que soi-même à aimer, à caresser, et avec qui faire l'amour.
Je ne savais pas que nous allions en parler ce dimanche de masturbation avec vous, André Comte-Sponville. Il y a aussi accepter le sevrage parmi les blessures narcissiques à régler.
Oui, c'est ça, c'est l'histoire. Pourquoi je prenais l'exemple du saint? Et oui, c'est que beaucoup de psychanalystes, d'ailleurs, nous disent que beaucoup de gens, justement, passent leur temps à chercher ce que le psychanalyste appelle le bon objet. L'objet qui va combler tous vos désirs, comme faisait le saint quand vous étiez au sein de votre mère. Mais voilà, c'est fini. C'est fini. Et ce que la psychanalyse nous apprend, au fond, c'est que votre plus grande histoire d'amour, elle est derrière vous, hein, et que vous ne la revivrez jamais. Est-ce que Romain Gary dit joliment, je ne sais plus où, mais que nous avons tous reçu de notre mère une promesse d'amour que personne ne pourra plus jamais tenir. C'est ça, et donc nous sommes tous en deuil du bon objet. Voilà, on a perdu le saint, nous sommes sevrés là. Il y a ceux qui n'acceptent pas et qui passent leur temps à chercher le bon objet. Ça peut être une drogue, ça peut être la gloire, ça peut être l'argent, etc. Vous voyez, évidemment, ça ne marche pas. La seule solution, c'est de renoncer au bon objet, donc accepter le sevrage, et découvrir qu'il y a en effet dans le monde mille choses à aimer, mille choses à faire, mille combats à conduire, etc. Bref, vivre vraiment au lieu d'espérer vivre, comme disait Pascal, vivre vraiment au lieu de rêver sa vie. Et donc c'est vrai que ce livre-ci, mais comme je dirais tous mes livres, c'est au fond un appel à la lucidité. Il y a une formule qui m'agace, qu'on entend sans arrêt dans les médias, « va au bout de tes rêves ». Je trouve la phrase profondément stupide. D'abord parce qu'aller au bout de ses rêves, on ne peut pas. Évidemment, je pense aux jeunes garçons de 7-8 ans, en gros un garçon sur deux à 7-8 ans rêve de devenir footballeur pro. Et 999,9% n'y parviendront pas. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour un gamin de 18 ans qui comprend qu'il ne sera jamais footballeur pro qu'aller au bout de ses rêves? Ça ne veut rien dire. Ou alors vous l'enfermez dans la rancœur, le ressentiment, la déception. Et puis beaucoup de nos rêves sont stupides. Et puis la plupart de nos rêves, y compris s'ils se réalisaient, seraient incapables de nous donner le bonheur qu'on en attendait. Enfin et surtout, la seule façon d'aller vraiment au bout de ses rêves, au sens propre du mot, c'est de se réveiller. Ouais. Et moi, ce que je propose, c'est au lieu de prétendre aller au bout de ses rêves, s'enfoncer dans l'illusion, cessons un peu de rêver et entreprenons de vivre vraiment.
Votre mère, elle est allée au bout de ses rêves.
Elle a essayé. Autrement dit, elle rêvait d'amour. Je le dis, elle est au fond assez proche de Madame Bovary, avec peut-être un peu moins de classe, mais oui, c'était ça. Au fond, elle rêvait sa vie et forcément, elle était déçue de sa vie parce que la vie n'est jamais à la hauteur de nos rêves. Vous savez que quand j'ai entrepris d'écrire, dans mes premiers livres, au fond, était une critique de l'espoir, une critique de l'illusion. Et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues, à l'époque j'en recevais très peu évidemment, j'étais un auteur qui débutait, inconnu, l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas mais qui avait lu mon premier livre et qui me disait qu'il était d'accord avec la critique que j'y faisais de l'espoir, de l'illusion, etc. Parce que, me disait-il, et là je cite mot à mot sa lettre, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points. On ne se tue que par déception. Il se trouve que 2 ans plus tard, ma mère s'est suicidée. Repensant à cette lettre du psychanalyste, je me suis dit, voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait.
Mais je vais vous dire, au bout de tes rêves, ma petite maman chérie, réveille-toi.
Oui, parce que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en était fait. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui s'en étaient faits, c'est-à-dire presque toujours, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Alors si la vie a tort, effectivement, le suicide est une solution en quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie a fait ce qu'elle peut, si vous voulez. Moi, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas à nos rêves, c'est-à-dire presque toujours, ça ne veut pas dire que c'est la vie qui a tort, ça veut dire que ce sont nos rêves qui sont vains, illusoires, mensongers dès le départ. Et qu'au lieu de prétendre aller sautement au bout de ses rêves, mieux vaut se réveiller, sortir de ses rêves pour entreprendre de vivre réellement, de vivre en vérité.
L'un de vos textes a pour titre « À propos d'une pandémie », période pendant laquelle on vous a beaucoup entendu dans les médias.
La mort fait partie de la vie. Et on a sentiment des fois en regardant la télévision que nos journalistes redécouvrent tout d'un coup que nous sommes mortels. Tu parles d'un scoop, on sait bien qu'on est mortel. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais toutes les morts ne se valent pas. Parce que mourir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, c'est quand même plus triste, excusez-moi, que de mourir à 80 ou 90 ans. Et quand je vois le sort qu'on est en train de réserver à nos jeunes gens, j'ai envie de pleurer. On n'empêche pas les jeunes de vivre pour protéger la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui me paraîtrait une injustice effrayante.
Voilà quelques extraits de vos interventions médiatiques à propos de ce fichu virus. Comment se fait-il que vous n'avez jamais réussi à avoir peur du Covid ?
Oui, c'est vrai. En plus, moi, encore une fois, je suis plutôt de tempérament anxieux. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que j'ai compris très vite que mes trois enfants, qui ont entre 30 ans et 40 ans, ne risquaient pratiquement rien. Et donc, pour le père anxieux que je suis, c'était une merveilleuse nouvelle. Pour une fois que mes enfants couraient moins de risques que moi.
Mais pour vous ?
Et quant au risque que je courais moi-même, écoutez, je ne risquais que de mourir, et donc je mourrais de toute façon. À l'époque, j'avais 69 ans, si vous voulez. Il y avait 1000 maladies qui me paraissaient bien plus effrayantes, la chorée de Huntington, la maladie d'Alzheimer, les AVC, les cancers, etc. Je ne voyais pas pourquoi je devrais avoir spécialement peur d'une maladie que je n'étais pas certain d'attraper, qui n'était létale que dans moins de 1% des cas. Les spécialistes aujourd'hui hésitent entre 0,3 et 0,7% des cas. Donc voilà, si j'attrapais le Covid, ben on verrait bien. Or, je l'ai attrapé, effectivement, oui. J'ai été hospitalisé 4 ou 5 jours, pas en réanimation, mais quand même sous oxygène. J'étais effectivement très malade et fatigué comme jamais. J'ai guéri, fort heureusement, vous voyez, mais là encore, si vous voulez, ce qui me frappait beaucoup pendant le Covid, c'est cette espèce de discours qui répétait à satiété « il n'y a rien au-dessus de la santé ». Qui revenait à faire de la santé la valeur suprême.
Et vous vous dites que ça n'est même pas une valeur, la santé.
Oui, c'est même pas une valeur du tout. Alors, d'abord, ça n'est pas la valeur suprême. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles, prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne. Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». C'est quand même sensiblement différent. J'espère ne pas être le seul à mettre l'amour plus haut que la santé.
Mais pour aimer, il faut être en bonne santé. C'est préférable, non ?
C'est toujours préférable d'être en bonne santé. Mais vous n'aimez pas les gens parce qu'ils sont en bonne santé. J'aime beaucoup cet ami, il est en parfaite santé. Alors celui-là, je l'aime moins parce qu'il est malade. C'est absurde, évidemment. Il n'est pas écrit au fronton des mairies « Santé, égalité, fraternité ». Il est écrit en France « Liberté, égalité, fraternité ».
Mais pour être libre... Il faut être en bonne santé, non ?
Et pas du tout, pas du tout. Tous les citoyens sont égaux en droit et en dignité et en liberté, y compris si vous avez de la grippe, y compris si vous avez un cancer.
Bref. Si je suis à l'hôpital, je ne me sens pas tellement libre.
Ben ça, c'est votre problème, cher monsieur. Mais moi, à l'hôpital, je me sens parfaitement libre. Je suis un citoyen, je peux m'exprimer. Ma liberté d'action est bien sûr limitée par la maladie. Mais on peut être libre en étant malade, comme on peut être esclave en étant en bonne santé. Donc ce sont des choses différentes. Mais donc, non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, mais ce n'est pas une valeur du tout, disais-je. Pourquoi ? Parce que les gens confondent les valeurs et les biens. La santé, c'est un très grand bien, c'est peut-être même le plus grand bien, au moins individuellement qui soit. Qu'est-ce que c'est qu'un bien ? Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Ou je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Et oui, la santé, la richesse, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou plus riche que moi, je suis un crétin. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus juste que moi, plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus aimant que moi. Autrement dit, la justice, la générosité, le courage, l'amour, ce sont des valeurs. Et quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà dans le nihilisme. Autrement dit, quand quelqu'un dit qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, il laisse entendre que la santé, qui est un très grand bien, c'est plus important que l'amour, la justice ou la liberté, qui sont des valeurs, et je crois que c'est un contresens. Que diriez-vous de quelqu'un qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent » ? Vous diriez « c'est du nihilisme financier ». Vous auriez raison et tout le monde serait contre. Eh bien, quand quelqu'un dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », pour moi, c'est du nihilisme sanitaire, et je m'étonne que tellement de gens semblent pour. Autrement dit, la santé est un grand bien, donc faisons tout pour protéger la santé. C'est pourquoi, encore une fois, je n'ai jamais condamné le confinement. J'ai condamné certains discours autour du confinement, mais j'ai toujours dit qu'il fallait le respecter, puisque c'était une décision de la République. Moi, je suis un citoyen républicain, j'obéis aux lois de mon pays. Mais en revanche, on a le droit de réfléchir. Eh bien voilà, l'idée que la santé devienne la valeur suprême, que le but de la vie, ça soit de ne pas tomber malade, ça m'a paru une idée effrayante.
Mais pour vous, la vie d'un jeune vaut plus que la vie d'un vieux ?
Non, c'est pas la vie qui vaut plus. Tous les êtres humains, encore une fois, sont égaux en droit et en dignité, quel que soit bien sûr leur âge, mais toutes les morts ne se valent pas. Parce qu'évidemment, comme je le dis dans l'intervention que vous avez reproduite, il est quand même plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 71 ans, c'est mon âge, ou à 81 ans, c'est l'âge moyen des morts du Covid-19. Et c'est ça le paradoxe. Au fond, j'énonçais une platitude extrême. Ce que j'expliquais, c'est que mieux vaut mourir vieux que jeune. Et donc, je me suis contenté de rappeler ça, et les gens ont été choqués. Pourquoi ? Parce que dans le sanitairement correct qui régnait à l'époque, on n'avait pas le droit de dire, malgré tout, qu'on ne peut pas sacrifier les jeunes à la santé de leurs grands-parents. D'autant plus qu'on le faisait au nom d'un principe qui peut être tout à fait légitime, à savoir, comme disait Emmanuel Macron, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles.
Les plus vulnérables.
Les plus vulnérables, les plus fragiles, il a dit les deux mots. Sauf que les plus vieux ne sont les plus vulnérables que d'un point de vue sanitaire. Parce que pour tout le reste, quant au fond, les jeunes sont bien plus fragiles, bien plus vulnérables que leurs aînés. Par exemple, moi, à 71 ans, que voulez-vous qu'il m'arrive de vraiment grave ? Quel est le pire risque ? Mourir jeune, la mort prématurée, comme disait Camus, mourir jeune, ben voilà. Je suis invulnérable. Face à ce risque-là, je ne risque rien, il est certain que je ne mourrai jamais jeune. Mes enfants peuvent mourir jeunes. Ils sont bien plus exposés que moi à ce risque-là. Deuxième risque, le chômage. Je suis à la retraite depuis des années. Je suis invulnérable face au chômage. Mes trois garçons sont parfaitement exposés au risque du chômage. Troisième risque, le réchauffement climatique. Peut-être que dans 30 ans, la vie sur Terre deviendra difficile. Mais je m'en fous. S'il n'y avait que moi, dans 30 ans, je serais mort. C'est de faire bien que mes enfants seront encore vivants. Vous voyez, donc, dès lors qu'on cesse de faire de la santé l'alpha et l'oméga de tout, on redécouvre cette évidence que les plus fragiles, en vérité, ce sont bien souvent les plus jeunes. Il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé. Il n'y a rien de plus fragile qu'un adolescent. Il n'y a rien de plus fragile qu'un jeune adulte. Et donc, quand j'ai vu qu'on commençait à sacrifier la liberté des jeunes, mais aussi l'avenir des jeunes.
Mais les vieux sont fragiles aussi, André Comte-Sponville.
Ils sont fragiles essentiellement en termes de santé. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui est plus important, l'éducation des jeunes ou la santé des vieux ? Que penseriez-vous d'un pays dont la priorité des priorités, ce serait le sort de ses octogénaires ? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants ? Non, non, le monde que je veux pour mes enfants, c'est un monde où on laisse les jeunes s'épanouir, grandir, faire des études, et qu'on ne sacrifie pas perpétuellement leur avenir, y compris en endettant très lourdement le pays, au nom de la santé de leurs grands-parents.
Plus je vieillis, moi j'ai peur de la mort, et cela me semble normal, c'est ce que vous écrivez. Pourtant, la mort, elle guette davantage quelqu'un qui est né en 1952 que quelqu'un qui est né en 1994.
Oui, mais elle ne peut me prendre beaucoup moins. Au fond, que peut la mort ne peut guère me prendre maintenant qu'une partie de ma vieillesse. Et sans doute pas la plus intéressante. Alors que la mort peut me prendre mes enfants, et bien sûr j'ai beaucoup plus peur de la mort de mes enfants que de la mienne, mais tout père, toute mère est dans ce cas. Et puis il y a des enfants qui meurent, donc voilà.
Mais moi, vous avez encore un peu peur au moins de la mort ?
Moi, en grandissant, en vieillissant, j'ai de moins en moins peur, et même pour tout vous dire, en ce moment, dans le quotidien, je n'ai aucune peur de la mort. Alors attention, quand je serai sur mon lit de mort, si le médecin m'annonce d'en avoir pour 15 jours, vraisemblablement je serai inquiet, triste, et c'est normal d'être triste quand on meurt, angoissé, parce que le néant angoisse presque par définition. Vous voyez, mais je crois que je le sais dans un de ses textes, j'ai repris une boutade ou une sottise, je ne sais pas, de Jacques Séguéla, le publicitaire, qui a dit, vous en souvenez un jour, à 50 ans, si t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Alors, j'espère qu'il n'était pas tout à fait sérieux, mais j'ai repris la formule dans quelque chose qui est aussi une boutade, mais que je crois plus vrai. Moi, ce que je dis, c'est que si à 70 ans, tu as encore peur de la mort, c'est que tu as raté ta vie.
Vous diriez, j'ai réussi ma vie aujourd'hui ?
Non, mais je dirais que ce n'est pas la question, en vérité.
Mais si vous deviez y répondre ?
Ce que je répondrais, c'est la phrase de Sartre, l'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. Mais il y a des échecs plus ou moins grands. Si vous voulez, moi, si vous m'interrogez sur ma vie, je voudrais volontiers ce que disait Schopenhauer de la sienne, je ne m'en suis pas si mal tiré. Je ne sais plus qui disait, dans la vie, il faut faire au moins un enfant et planter au moins un arbre. Voilà, ben j'ai fait 4 enfants, puisque la première est morte, mais 3 sont vivants. J'ai planté des dizaines d'arbres, j'ai écrit une trentaine de livres. Écoutez, c'est pas si mal.
Merci André Comte-Sponville d'avoir été avec nous cette semaine. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, La clé des champs et autres impromptus. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
Et hop, nous ouvrons notre grand dictionnaire. Et cette fois, il est question de la pensée de l'héritage de Jacob von Uexküll. Bonjour Gaël Jean-Marc.
Bonjour Pascal.
Vous êtes philosophe membre de Philocité. Jacob von Uexküll, qui est un biologiste et philosophe allemand né en 1864. C'est l'un des pionniers de l'éthologie et de la biosémantique. Gaël, expliquez-nous.
Oui. La biosémantique, c'est une révolution initiée en biologie, où jusqu'alors on étudie le vivant, c'est ça la biologie, mais plutôt en le regardant sous l'angle des molécules, c'est-à-dire sous l'angle physico-chimique finalement. Et von Uexküll va s'intéresser au vivant à partir de la capacité du vivant à signifier ou à lire le monde et les signes qui l'entourent. Et donc on cesse d'opposer les sciences exactes, sciences du vivant, et les sciences humaines, parce qu'en fait on cesse d'appliquer un modèle purement mécaniste au vivant pour s'intéresser au contraire à la capacité qu'ont tous les êtres vivants, y compris les bactéries, à lire et donner sens au monde qui les entoure.
La notion de monde, elle est très importante pour ce grand biologiste. Il la distingue de la notion d'environnement. Voilà qui mérite quelques explications, Gaëlle.
Oui, la notion d'environnement pour von Uexküll, c'est finalement le monde objectif doté de propriétés fondamentales. C'est celui qui étudie les sciences exactes habituellement. C'est celui qui fait monde commun d'une certaine façon. Et il le distingue du monde qui est la façon dont chaque espèce se rapporte à l'environnement en le percevant à partir d'un appareil sensoriel spécifique. On connaît ces images de ce que voient par exemple les abeilles. Elles n'ont pas du tout la même perception que nous parce qu'elles n'ont pas du tout la même vue. Voilà, ça veut dire que le monde n'existe pas d'une façon neutre et objective comme les sciences exactes voudraient nous le faire comprendre ou croire, parce qu'en réalité, il n'existe qu'en fonction d'un appareil perceptif qui nous le fabrique à mesure de notre intérêt et de nos capacités sensorielles, en fait.
Pouvez-vous nous donner un autre exemple pour illustrer ce concept de monde ?
Oui, Huxley parle de la tique, qu'on n'étudiait pas beaucoup jusqu'alors, ce genre de petit animal qui a l'air d'être capable d'à peu près rien percevoir, mais c'est justement ça l'intérêt. La tique, en fait, elle a trois perceptions, donc l'environnement pour elle se réduit à trois perceptions qui sont son monde. Elle perçoit la lumière, elle se dirige vers la lumière du soleil, elle monte sur une branche. Elle perçoit l'acide butyrique des animaux, elle se laisse tomber quand elle le sent à leur passage. Et elle perçoit la chaleur des animaux à sang chaud, de sorte qu'elle peut pomper le sang. Rien d'autre n'existe pour elle et elle peut passer 18 années, il y a eu des expériences comme ça en laboratoire, pendant 18 temps, la tique ne perçoit strictement rien, ça veut dire qu'elle a non seulement un monde qui est complètement différent d'une autre, mais aussi une temporalité, parce que vous imaginez 18 ans sans aucune stimulation, c'est pas rien.
Dernière question, qui sont les héritiers ou les héritières de Jacob von Huxkull ?
Alors c'est tout un courant de notamment de l'éthologie, donc l'étude du comportement des animaux, qui au lieu d'étudier les animaux en laboratoire avec cette idée de se tenir à distance, d'étudier de façon neutre et objective, de se désengager d'une certaine façon de la relation à l'animal, c'est tout un courant qui au contraire va s'engager dans la relation aux autres êtres vivants pour essayer de les comprendre, de comprendre comment la tique